Bonjour et bienvenue sur Radio Capucin 94.5 FM. Aujourd'hui, les élèves de CM2 de l'école Montaigu élémentaire ont le plaisir de vous parler du sport paralympique. Pour cette journée incroyable, nous sommes en compagnie d'un grand champion d'Arnaud Assoumani. Bonjour Arnaud. Nous allons vous poser quelques questions pour mieux vous connaître.
À quel âge avez-vous commencé votre carrière ?
Alors j'ai commencé ma carrière à... Enfin j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 11 ans. J'avais envie d'en faire depuis l'âge de 5 ans. J'avais vu Carl Lewis voler à la télé et je voulais ressentir ce que ça faisait de pouvoir courir en l'air. Et réellement j'ai commencé ma carrière à haut niveau à 17 ans. Donc j'ai progressé d'année en année. Je m'entraînais une fois par jour, après deux fois, trois fois. Commencé à faire des compétitions. J'ai gagné championnats départementaux, régionaux. Après, j'ai fait les championnats de France. Et après, je suis parti sur les différentes compétitions internationales. Donc voilà, maintenant, ça fait 13 ans que je suis à haut niveau et 20 ans que je fais de l'athlétisme.
Comment êtes-vous devenu un athlète de haut niveau ?
Alors, comment je suis devenu un athlète de haut niveau ? Mais comme du coup, je l'expliquais un petit peu. Ça se fait progressivement. Je sais pas si, enfin, vous faites du sport. Au départ, le sport c'est un plaisir. On le fait pour être avec ses copains, on le fait pour s'exprimer. Après, je suis aussi compétiteur, donc j'aime la compétition et être le meilleur dans ce que je fais. Et bah, c'est justement en progressant. Et je voulais faire les jeux un jour. Et du coup, je me suis entraîné dur pour ça. Donc c'est dur parce que ça prend du temps. Tous les jours on répète, on s'entraîne du lundi au samedi, on n'a pas vraiment de week-end. Vous avez des week-ends vous ?
Oui, oui.
Bah, moi j'ai pas vraiment de week-end, je me repose que le dimanche. Et du lundi au samedi je m'entraîne. Et là tout à l'heure je vais partir à 16h parce que je dois aller m'entraîner après.
Depuis quand pratiquez-vous le saut en longueur et le triple saut ?
Alors quand j'ai commencé l'athlétisme, je touchais un petit peu à tout. S'il y en a qui font de l'athlétisme, ils font aussi de l'école d'athlétisme. C'est-à-dire qu'on fait toutes les disciplines, des lancers, des sauts, de la course. Et j'ai commencé la longueur petit, mais réellement, je me suis spécialisé quand j'avais 17-18 ans. Et où là, je faisais vraiment plus que de la longueur. Parce que malheureusement, quand on grandit, il va falloir choisir un domaine où vous allez vous spécialiser.
Pourquoi pratiquez-vous le triple saut et le saut en longueur ?
Alors je pratique le triple saut et le saut en longueur, mais surtout le saut en longueur. Je suis surtout sauteur en longueur parce que j'aime ça, parce que c'est ma passion et parce que je prends du plaisir à faire ça. Et quand j'étais enfant, c'était mon rêve de faire du saut en longueur.
Comment vous entraînez-vous ?
On s'entraîne donc comme je disais tous les jours, du lundi au samedi à peu près, donc une à deux fois par jour. Quand on s'entraîne une fois, l'entraînement ça va durer entre 2h et 2h30. Et lorsqu'on s'entraîne deux fois, ça va être entre 4 heures à peu près et 5 heures dans la journée, tous les jours. Et puis après, on a aussi des soins, c'est-à-dire qu'il faut récupérer. Lorsqu'on s'entraîne beaucoup, c'est fatigant pour les muscles, on peut se blesser aussi. Donc on a besoin de récupérer, parce que sinon, si on se fait mal, on peut plus faire de compétition et on peut plus être performant.
Combien avez-vous gagné de médailles ?
En tout, je ne sais pas du tout, j'ai jamais compté. Des médailles paralympiques. Là, il y en a 4 et j'en ai gagné 5. Et 2 médailles de bronze à Athènes et Rio. 2 médailles d'argent à Londres en longueur et triple saut. Et une médaille d'or à Pékin.
Est-ce que vos adversaires ont le même handicap que vous ?
Alors, mes adversaires, la particularité, si vous avez suivi un petit peu certains les Jeux paralympiques, c'est que vous avez vu qu'il y a différentes catégories de handicap. Et donc moi je concours qu'avec des personnes qui sont soit qui ont le même handicap que moi ou assimilés. Donc assimilés, c'est certaines personnes ont eu un accident par exemple dans la vie et ne peuvent plus avoir l'usage d'un bras. Et donc c'est le cas par exemple de Charles Rozoy qui est un champion français de natation. Ce sont que des athlètes avec la même déficience, si vous voulez. Donc il y a une équité et une meilleure égalité quand on est en compétition.
Que représente ce sport pour vous ?
Alors ce sport pour moi représente beaucoup puisque j'ai la chance d'en vivre, enfin c'est mon métier. Lorsque j'avais votre âge, c'était un rêve de pouvoir participer à des compétitions internationales. Jamais j'aurais imaginé que ça puisse un jour être mon métier puisque c'est un sport d'abord, c'est un hobby, un loisir et une passion. Mais pour moi, c'est très important de pouvoir redonner et partager mon expérience avec vous. Mais surtout, voilà, de pouvoir transmettre. Donc, c'est important aussi de pouvoir faire ça. Et c'est grâce au sport.
Est-ce que votre bras vous fait mal?
Non, bon, alors, vous m'avez souvent posé la question aujourd'hui. Mon bras ne me fait pas mal du tout. C'est comme si vous mettez votre paire de chaussures. Moi, c'est exactement la même chose. C'est qu'on a un appareil pour. Au niveau auditif, c'est exactement la même chose. C'est un outil, je m'en sers dans la journée parce que je fais plus de choses avec ma prothèse, que ce soit pour courir, pour faire de la musculation, donc pour l'entraînement, mais également pour conduire. J'ai fait 7 ans en moto et en scooter. Si j'ai pas de prothèse, je suis un peu bancal. Je pense que je me prendrais le guidon dans le nez. Donc, du coup, c'est important pour ça. Et comme vous, le soir, en fait, vous enlevez vos chaussures quand vous rentrez chez vous. Bah, moi, généralement, j'enlève ma prothèse parce que je suis plus à l'aise à la maison sans. Et quand je me couche, si mon bras m'embête, je peux l'enlever, quoi. C'est pratique.
Quel est votre plus beau souvenir?
Mon plus beau souvenir, c'est mon pire souvenir en même temps. C'était à Londres et je termine deuxième. J'avais gagné à Pékin et je visais de grandes choses en me qualifiant aussi pour les Jeux Olympiques. Et toute ma famille était présente. Mes parents sont divorcés. Du côté de mon père et de ma mère, ils étaient tous présents. Et donc pour eux, je voulais leur ramener une médaille d'or. Sauf que j'ai pas réussi à leur ramener cette médaille d'or. J'ai perdu pour 2 cm. Et donc ce jour-là, j'étais très très triste. Sauf que j'étais en même temps très content que ma famille soit réunie ce jour-là.
Quand comptez-vous arrêter votre carrière?
Alors je pense arrêter ma carrière pas tout de suite. Je continue encore jusqu'à Tokyo. Donc Tokyo, ce sera en 2020. Alors vous serez assez grand s'il y a des sportifs, des futurs footballeurs par exemple, ou dans d'autres sports, hein, pour Paris 2024. Vous savez que Paris est en candidature pour avoir les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en France. Ça va se décider d'ailleurs l'année prochaine. Je ne sais pas si je continuerai jusqu'à 2024 parce que je commencerai à être un peu vieux. Mais en tout cas, en 2020, je serai normalement, si tout se passe bien, à Tokyo. Voilà.
Est-ce que c'est difficile de vivre sans son bras gauche?
Non, pas du tout. C'est pas difficile de vivre sans son bras gauche parce que je suis né comme ça déjà. J'ai pas eu d'accident. Je pense que c'est difficile quand vous êtes habitué d'une manière à, voilà, vous êtes né avec vos deux bras, vos deux jambes, et que vous avez une maladie ou un accident et vous devez réapprendre à faire différemment. Moi, je suis né comme ça, donc j'ai toujours fait comme ça. Je peux faire de la musique, je peux faire tout ce que vous faites. Généralement, j'arrive à le faire. Je vais juste le faire de manière différente. Et l'être humain a cette formidable capacité d'adaptation. On s'adapte à toutes les situations et on trouve des solutions. Donc tout va bien. Après, ce qui peut être difficile, c'est justement si vous avez des camarades qui se moquent de vous, qui vous mettent à part et qui vous montrent que vous êtes différent. À partir du moment où tout le monde se sent égaux, il n'y a aucun problème.
Pourquoi on vous appelle l'homme au bras d'or?
On m'appelle l'homme au bras d'or parce que j'avais lancé un concours il y a 4 ans pour dessiner cette prothèse. Donc, enfin, vous la connaissez, le nom c'est Golden Vespa. Et pour le concours, j'avais donné un thème, c'était le thème super-héros. Donc, je proposais à tout le monde, aux enfants, aux plus jeunes, aux dessinateurs professionnels, de dessiner la prothèse. Et le concours s'appelait Golden Arm. Et Golden Arm en anglais, ça veut dire le bras d'or, donc l'homme au bras d'or. Et puis il y avait eu un réalisateur qui m'a suivi pendant 2 ans, pendant que je m'entraînais avec une caméra, jusqu'à Londres, pour suivre toute ma préparation. Et le titre du documentaire et du film s'appelait L'homme au bras d'or.
À quel âge avez-vous eu votre première prothèse?
Alors ça, je pense que je ne m'en rappelle pas vraiment. Ma première prothèse, j'ai dû l'avoir vers 3 ans. C'était une toute petite prothèse. Je me souviens, ça fait un peu comme une prothèse de bébé. Enfin, c'est marrant. Si vous jouiez encore il n'y a pas très longtemps, je pense au Barbie ou autre. Donc c'était un peu la même chose. toute petite prothèse. Et après, j'aimais pas tellement en fait la porter. J'étais pas à l'aise avec. Donc je l'ai enlevée. Donc pendant plusieurs années, je vivais sans prothèse jusqu'à ce qu'un jour, lorsque je faisais du vélo dans le parc avec mes parents, il y a eu un prothésiste qui est venu me voir et qui a dit si vous voulez, enfin qui a dit à ma mère si vous voulez, on fait des prothèses maintenant qui bougent. Ce qu'on appelle ça des prothèses myoélectriques, c'est-à-dire qu'elles sont contrôlées myo, c'est les muscles, et donc elle est électrique parce qu'il y a un moteur et on peut ouvrir et fermer avec la prothèse. Alors je ne l'ai pas amené aujourd'hui. Et donc j'ai eu une main myoélectrique. Donc ça me permettait par exemple de pouvoir faire du vélo et de serrer comme avec une vraie main. Donc là j'avais, je devais avoir 7 ans. Donc j'étais habitué à porter une prothèse et c'est pour ça aujourd'hui aussi que je porte une prothèse. Parce que j'étais habitué depuis tout petit à en porter une.
Comment faites-vous pour manier votre prothèse ?
Ça demande beaucoup de dextérité, d'entraînement. Non, mais il n'y a pas vraiment à manier en fait. C'est-à-dire que, comme un peu, bah, c'est un peu, je reprends l'exemple des chaussures. Les chaussures, elles sont faites un peu à la forme de vos pieds. Si vous avez des chaussures qui ne sont pas à la forme de vos pieds, vous allez avoir mal, vous allez avoir des ampoules, etc. Bah, c'est exactement la même chose pour une prothèse. On fait un moulage avec le prothésiste, avec du plâtre. De cet moulage, il va faire une emboîture. Et donc, moi, quand je mets ma prothèse directement, je me sens comme dans des chaussons, en fait, un petit peu. Donc après, pour la manier, j'ai juste en fait à bouger mon coude. Voilà, il n'y a rien de vraiment sorcier.
Est-ce que c'est difficile de sauter sans son bras ?
Alors, je ne saute pas sans mon bras, puisque j'ai ma prothèse. Et ma prothèse, pour moi, c'est mon bras. Je dis prothèse, mais pour généralement, par exemple, quand je suis à la maison ou quand je suis avec ma mère et que j'étais en retard, par exemple, pour aller à l'école, et je retrouvais pas mon bras. Je dis, maman, t'as pas vu mon bras ? Donc je l'appelle pas prothèse. Je dis, mais il est où mon bras ? Sauf que bon, ça fait bizarre quand vous dites à quelqu'un, t'as pas vu ma jambe ou mon bras ? Donc pour moi, je saute avec deux bras aussi. Et la prothèse me sert d'équilibre pour courir et également pour sauter. Vous m'avez vu courir et vu sauter, vous voyez que j'utilise énormément les bras. L'action... Voilà, des bras est super important car après, c'est les jambes qui vont suivre grâce à la coordination. Et lorsqu'on saute, on a l'impression qu'on court en l'air. Et lorsqu'on court en l'air, en fait, on fait ce qu'on appelle un ciseau. Et lorsqu'on fait le ciseau, j'utilise réellement les bras. Et sans cette action des bras, j'irai beaucoup moins loin en longueur.
Êtes-vous gêné de montrer votre bras ?
Non, je ne suis pas gêné de montrer mon bras, enfin d'enlever la prothèse. Je suis pas gêné, après je le fais pas parce que je le fais aujourd'hui avec vous parce que c'est bien que vous compreniez que déjà c'est pas grave, j'ai pas mal, il n'y a pas de différence et que voilà, c'est normal quoi, ça fait partie de la vie et je fais autant de choses que vous, voire pour l'instant je fais plus de choses que vous. J'espère que vous ferez plus de choses que moi quand vous grandirez. Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça.
Est-ce que c'est plus difficile de faire du sport avec un handicap ?
Je pense que de faire du sport à très haut niveau, c'est difficile pour tout le monde. Après, j'ai des difficultés face à certains exercices, parce que pour moi, ça va être prendre une barre avec ma prothèse. Alors, pas celle-là, mais j'ai une prothèse de musculation où je peux attraper, tirer et donc pousser. Je vais pouvoir le faire. Sauf que, à la différence de quand on a deux bras, on va pouvoir avoir des ampoules. Sur les doigts, on va pouvoir mettre des gants. Moi, je peux pas vraiment mettre de gants en fait, et des fois, je vais me faire un petit peu mal. Donc, y a des petites difficultés comme ça. Mais autrement, j'ai pas de difficultés en fait. Je peux tout faire comme tout le monde. Après, c'est juste que j'ai un objectif et j'ai envie de le réaliser. Donc, je travaille dur pour ça.
Est-ce que vos compétitions vous ont rapporté beaucoup d'argent ?
Mes compétitions, lorsque on gagne, par exemple, les jeux. Il y a des primes, donc on a de l'argent et ça nous permet de pouvoir mieux nous entraîner déjà, parce que ça coûte de l'argent à l'année de s'entraîner. Pour tous les athlètes, même s'ils gagnent de l'argent ou même s'ils arrivent à être professionnels, pendant une longue période, ils ne gagnent pas d'argent et ça coûte beaucoup d'argent par exemple de s'entraîner, d'acheter des équipements, de s'inscrire au club, etc. Et moi, depuis 2008, depuis que j'ai gagné les Jeux Paralympiques à Pékin, j'ai la chance de pouvoir vivre de mon sport et d'être professionnel. Et donc, c'est aussi grâce aux médailles. Si je ne gagne pas de médailles, je ne pourrais pas vraiment continuer à m'entraîner ou à vivre comme je le fais. Il faudrait que je travaille en même temps. Donc, c'est important pour moi de gagner des médailles. Tous les 4 ans, je remets un petit peu en jeu ma vie, en fait, ma carrière. Que s'il n'y a pas de médailles derrière, il faut que je pense à faire les choses de manière différente pour pouvoir continuer à vivre.
Êtes-vous triste de n'avoir qu'un bras ?
D'après toi, je suis triste ?
Je sais pas.
Est-ce que j'ai l'air triste ?
Non.
Non, voilà.
Quel âge avez-vous ?
Quel âge j'ai ? J'ai 31 ans.
Avez-vous eu envie de tout arrêter à cause du handicap ?
Non, pas du tout. J'ai jamais voulu arrêter à cause de ça. J'ai failli arrêter, par contre, parce que pendant un moment, j'avais 18 ans et j'avais beaucoup de blessures. J'ai des blessures au dos qui ont duré pendant quasiment 4 ans. Et certains jours, je ne pouvais pas tout simplement me baisser pour toucher mes pieds ou faire mes lacets parce que j'avais trop mal au dos. Donc j'avais failli arrêter pour ça. Mais jamais par rapport... Enfin, c'est justement, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous, vous le voyez comme un handicap. Mais pour moi, c'est pas un handicap. C'est plutôt d'ailleurs l'inverse, c'est plutôt une force, un booster. Vos camarades qui ont un appareil, qui sont par exemple malentendants ou qui ont une déficience, ne se sentent pas handicapés non plus. C'est plutôt le regard qu'on va avoir sur eux qui va faire qu'ils se sentent handicapés. Mais moi, je me sens pas handicapé. Vous vous posez beaucoup de questions sur le handicap. Comme si je vous posais beaucoup de questions sur votre couleur des yeux ou sur votre coupe de cheveux. Vous avez tous une coupe de cheveux différente et tous des yeux d'une couleur différente. Mais c'est un petit peu la même chose, sauf que là, la particularité physique est un peu plus grande. Voilà.
Avez-vous des membres de votre famille qui ont pratiqué votre sport ?
Alors, mes parents sont très sportifs. Mes parents ont fait... ma mère a fait à peu près 25 ans de volley et mon père 30 ans de basket, mais jamais à très haut niveau. Hein. Il faisait donc ça pour le plaisir et à un niveau régional. Et mon frère a fait du football américain aussi lorsqu'il était jeune et ma sœur de la danse. Mais aucun n'avait fait... Enfin, si, ma mère a fait de l'athlétisme lorsqu'elle était jeune, mais sinon jamais autant que moi. Quoi.
Avez-vous des frères et sœurs ?
Alors justement, j'ai un frère et une sœur, et ils sont plus vieux que moi, ils ont une dizaine d'années de plus que moi. Donc je suis le petit dernier.
Avec votre handicap, comment avez-vous vécu votre enfance ? A-t-elle été compliquée ?
Alors mon enfance a été, je dirais, normale et très joyeuse. Et il y a juste eu un moment au collège... donc un peu plus vieux, où j'ai rencontré d'autres élèves qui se sont moqués de moi par rapport à mon bras, qui me traitaient de manchot, ils jetaient mon manteau à la poubelle, et j'ai été très très triste pendant cette période-là, et j'ai voulu changer de collège. Un jour, j'ai dit à ma mère, je peux plus y aller, alors que j'avais plein de copains et tout se passait bien. En plus, la personne qui faisait ça, c'était quelqu'un avec qui je faisais de la natation depuis très longtemps. Donc c'était dur pour moi et je comprenais pas pourquoi les autres se moquaient de moi, puisque pour moi, j'étais complètement normal. Mais à part ce moment-là, j'ai pas eu d'autres moments vraiment qui m'ont fait souffrir. J'ai toujours eu les gens qui me regardaient un peu de manière différente, que ce soit l'été à la plage, parce qu'ils voyaient, par exemple, ma prothèse lorsque j'étais en t-shirt, ou parce qu'à la plage, j'allais enlever mon bras quand j'allais me baigner. Mais j'ai toujours été habitué. Je n'avais pas forcément de regard négatif ou de personnes qui me montraient du doigt. Donc, ce qui est important et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les moments, par exemple, durs que j'ai vécu, c'est pas normal. C'est sympa lorsqu'on... se moque gentiment d'un ami, mais lorsqu'on se moque méchamment de quelqu'un, c'est jamais gentil. Et après, souvent, on est plusieurs à se moquer de la même personne. Et ça, c'est des choses qui sont réellement pas à faire, parce que ça peut blesser et faire vraiment très mal.
Avez-vous un message à transmettre aux jeunes qui nous écoutent ?
Un message aux jeunes qui nous écoutent, donc un message à vous surtout, comme je vous le dis depuis un petit peu tout à l'heure. Le handicap n'est pas un handicap. C'est un mot qu'on a inventé, qu'on utilise pour définir quelqu'un par rapport à un autre. C'est-à-dire, on dit qu'il y a une norme, et tu as un handicap, ça veut dire que tu vas être différent, tu vas avoir une particularité physique par rapport à une norme qu'on a définie comme norme, donc que ce soit mentale ou physique. Mais en réalité, on a tous différents handicaps à notre niveau. Il y a des choses qu'on vit dans l'enfance, ça peut être dans notre famille, des proches qu'on peut malheureusement perdre pendant notre vie. Tout ça, c'est aussi des handicaps qui peuvent nous suivre. Je vais vous donner un exemple. Je fais de la musique brésilienne, par exemple. Je fais un instrument, donc du samba. Donc là, ça tombait bien, c'était à Rio. D'ailleurs, j'ai joué à Rio avec un groupe de samba, Batucada. Et l'instrument que je joue, ça s'appelle un repinic. Ça ressemble à un tom de batterie. Il y a une peau sur le dessus et une peau sur le bas. Et ça se joue avec une baguette et la main. Et lorsque j'ai commencé le samba, j'étais dans une école pour apprendre. Et donc, j'étais avec d'autres débutants comme moi. Et on nous apprenait à dissocier bras droit, bras gauche. Et après, à accélérer. Donc, pas, tin, 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 tin. Et donc, moi, j'arrivais à le faire. Il y a eu une autre fille qui était avec moi. Elle faisait. On lui dit, non, non. Tin, 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 tin. Non, on va le faire plus lentement. D'accord? Alors, cette fille travaille à la police, à la criminelle, donc ça veut dire qu'elle étudie tout ce qui se passe, un peu comme dans les séries policières que vous pouvez voir. Et par rapport à moi, j'ai l'impression qu'elle était handicapée. Pour moi, elle était handicapée, cette fille, parce qu'elle n'arrivait pas à faire quelque chose qui était pour moi simple et qui pour moi était normal. Alors qu'en fait, en réalité, non, elle n'est pas handicapée. Donc tout ça pour vous montrer, avec cet exemple, qu'un handicap n'est pas juste une différence physique, mais que soi-même, même si vous vous en sentez sain, mais au final, on est tous handicapés. Donc encore une fois, il n'y a pas de différence.
Avez-vous un autre métier?
Est-ce que j'ai un autre métier? Alors, athlète, aujourd'hui, c'est vraiment mon métier premier. Après, je fais d'autres choses. J'ai la chance de travailler avec des sponsors, donc des partenaires qui m'aident à suivre ma carrière. Et je fais ce qu'on appelle du développement produit. Alors, j'ai sorti une enceinte Bluetooth qui s'appelle Oglo, par exemple. Et donc j'ai sorti deux enceintes à mon nom. Donc peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs, c'était chez Boulanger, il y en avait deux enceintes à mon nom. Donc je fais un petit peu de ça parce que j'adore la musique. Je fais également des conférences en entreprise. Donc c'est en gros, je vais un petit peu comme ça discuter et parler sur différents thèmes qui parlent du coup aux gens de l'entreprise. Et j'ai plein d'autres projets pour l'avenir, mais pour l'instant, réellement, je suis athlète encore.
Avez-vous un animal de compagnie?
Alors malheureusement, je n'ai pas d'animal de compagnie, pas parce que j'aime pas les animaux, j'adore les animaux. D'ailleurs, j'avais un chat et un chien lorsque j'étais plus petit, mais avec le sport, on voyage pas mal. Alors c'est bien de voyager, hein, c'est super, mais quand on a un animal, il faut s'en occuper aussi. Donc malheureusement, si j'ai un animal, je pourrais pas très bien m'en occuper. Donc pour l'instant, j'en ai pas. Voilà. Parce que j'ai vécu aussi à l'étranger, j'étais 3 ans aux États-Unis, en Californie. Et donc j'étais assez loin de la maison, donc ça aurait été compliqué pour moi de s'occuper de mon chien ou chat si j'en avais un. Oui.
Comme vous êtes un musicien, pouvez-vous nous faire du kickbox?
Vous avez entendu, donc moi je fais un peu de beatbox, donc
merci Arnaud d'avoir répondu à notre invitation et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. À très bientôt pour une prochaine émission sur 94.5 FM. C'était la classe de CM2 de l'école élémentaire Montaigu. Bye!
Merci à vous tous.